Le père Jean-Michel Tour sur Radio Maria France dans nos studios. C'est tout de suite sur Radio Maria France.
Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui des festins des noces de l'agneau. Voilà, un souffle nouveau pour que nous soyons dans une régénération dans le Saint-Esprit. C'est ça qui nous importe. C'est le sens de notre prière quotidienne, d'être dans la dépendance de la grâce et toujours demander au Saint-Esprit de nous renouveler dans sa vie, cette vie qui est... C'est comme notre cœur, en fait, hein, qui bat tous les jours. Si un jour il s'arrêtait, ben on mourrait. Ça arrivera bien un jour, mais... Et bien en fait, le Saint-Esprit, nous avons besoin pour vivre cette vie spirituelle que tous les jours nous soyons restaurés dans ce flot du fleuve de Dieu, dans ce feu, dans ce vent. Enfin bref, toutes les images de la Bible qui parlent du Saint-Esprit et qui est la vie de Dieu en nous. Et qui répand en nous la charité. Alors du coup, on avait un texte magnifique sur le royaume des cieux. Et vous savez que c'est ce que nous vivons dès maintenant. Alors, bien évidemment, il y a une réalité qui sera pleinement accomplie le jour où le Christ reviendra, ou quand nous mourrons, nous entrons dans la vision et dans la pleine réalité, dans la plénitude de cette réalité spirituelle. Mais déjà sur cette terre, et la vie chrétienne est une vie dans le royaume, et une vie du royaume. C'est ce que les apôtres prêchent, selon le commandement de Jésus, proclamer que le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc ça veut dire vivez ces réalités du royaume de Dieu, et Jésus n'a pas cessé de prêcher ça, de manifester justement que dans ce royaume, eh bien, il y a une restauration du bien, du bon, selon le plan de Dieu. Donc il guérissait les malades, il chassait les démons, il ressuscitait les morts, bref. Et il pardonnait surtout les péchés qui occasionnaient la mort spirituelle. Et donc ce royaume de Dieu, eh bien, c'est ce qui va diriger toute notre vie, vivre chaque réalité humaine, chaque réalité de notre vie humaine dans la réalité spirituelle, surnaturelle du royaume des cieux, et dont nous sommes héritiers, puisque c'est ce que le Christ a fait, et Jésus nous dit, il a plu au Père de vous donner le royaume. Donc c'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose qui est à nous. Jésus nous dit que réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux, donc c'est quelque chose d'acté. Nous faisons partie du royaume des cieux. Pour que nous puissions vivre ces réalités du royaume, eh bien, il va falloir être dans cette dépendance, dans ce don de la justice que nous recevons du Christ, et dans cette abondance de la grâce. Qu'est-ce que nous disent les textes sur le royaume des cieux ? En Matthieu 22, c'était l'évangile que nous avions, il était dit, Jésus disait que le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Donc c'est un repas de noces entre son fils bien-aimé, nous savons que c'est Jésus-Christ, et la fiancée et l'épouse qui est l'Église et donc qui est chacun d'entre nous. Je m'arrête là sur l'évangile, je passe à la prophétie d'Ésaïe 25, parce que Jésus reprend en fait cette image, cette prophétie d'Ésaïe 25, avec cette histoire de banquet, où le texte biblique nous dit « Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse, de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours, le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et sur toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple, le Seigneur a parlé. » C'était la première partie, j'ai tout lu. Et donc, il y a pour tous les peuples cette invitation, on le retrouvera dans l'Évangile. Tout le monde est invité à participer au festin des noces de l'agneau. Ce n'est pas juste quelques-uns qui sont prédestinés à être sauvés et d'autres qui ne le seraient pas. Mais tout homme, Jésus a donné sa vie pour que tout homme soit sauvé et que tout homme puisse participer à ce festin des noces de l'agneau. Et nous sommes tous prédestinés au salut, tous prédestinés à la sainteté, tous prédestinés à être fils et filles de Dieu, fils bien-aimés de Dieu, dans le Christ Jésus. Où est-ce que le texte nous dit que nous allons vivre ce festin ? Eh bien, sur sa montagne. Alors, dans la Bible, vous savez, la montagne, c'est toujours le lieu de la révélation. C'est toujours le lieu où, par exemple, Moïse va monter, il va voir la gloire de Dieu dans ce buisson ardent. C'est le lieu où Dieu va lui parler, Dieu va lui montrer, va lui révéler son nom, Dieu va lui donner les commandements. C'est sur cette montagne que Moïse va s'entretenir avec Dieu. C'est sur cette montagne aussi que Élie va monter, il va entendre la douce brise légère. C'est toujours la montagne est un lieu d'intimité. Jésus montera sur la montagne pour prier le soir, des nuits entières, son Père, pour retrouver son Père dans l'intimité après avoir eu une journée de ministère complète. Et puis les apôtres verront Jésus transfiguré sur la montagne. Voilà, donc la montagne, quand on entend dans le texte d'Isaïe 25, sur sa montagne, il préparera pour tous les peuples, donc pas juste le peuple d'Israël, mais pour tous les peuples, pour l'Église, pour l'humanité, restaurée et sauvée, eh bien, un festin de viande grasse, de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il va faire quatre choses. Donc ça veut dire que cette montagne, c'est-à-dire dans l'intimité, eh bien, c'est le lieu du festin auquel nous sommes invités. L'idée de festin, ça nous renvoie à... voilà, moi, samedi, je vais célébrer des noces. Je vais célébrer le mariage d'une fille d'amis. Et voilà, je suis invité aux noces. Après, je pense qu'on va bien manger. On ne va pas manger des sandwichs. On ne va pas boire une piquette lambda. Enfin, normalement. Enfin, j'espère. Enfin, en tout cas, je vous le raconterai si c'était mauvais. Mais c'est quelque chose où c'est un peu superlatif, quoi. Et pour nous dire que le royaume de Dieu, il y a quelque chose de... Alors, il y a le côté festif du festin. Il y a le côté épousaille des noces. Et il y a le côté joyeux. Il y a le côté... Il y a le côté convivial les uns avec les autres, pas tout seul. On vit pas le festin des noces de manière très égoïste dans son petit coin, son petit Jésus, mais ça englobe un peuple entier, de tous les peuples ensemble, dans une communion d'amour qui participe à la joie des épousailles, parce que, effectivement, pour le coup, là, dans le cas présent, les invités sont les époux, les épousés, les épouses plutôt, et, puisque l'époux, c'est le Christ. Et donc, il y a un côté rassasiement, hein. Festin, on a largement de quoi manger et plus encore. Et c'est délicieux et on se réjouit de la suavité de ce que l'on mange. Et pour le coup, là, ce n'est pas un péché de gourmandise puisque c'est dans le plan de Dieu. Ça ne nous rend pas malades ni ivres. Et c'est juste pour nous dire quoi ? C'est pour nous dire que nous avons à désirer une plénitude. Quand nous voulons vivre, c'est des images charnelles, des images humaines qui sont prises pour nous parler d'une réalité spirituelle, eh bien, il y a un psaume qui dit « Rassasie-moi de ton amour au matin, rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. » Et dans le royaume de Dieu, ce n'est pas juste la petite bénédiction que nous devons demander à Dieu ou Dieu daignerait un peu venir à notre secours, mais c'est une plénitude de son amour, une plénitude. Et notre désir doit s'ajuster au désir de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est de nous combler de sa plénitude. Et sa plénitude, elle est bien au-delà de notre capacité à recevoir. Il comblera les désirs, il comblera ton cœur au-delà de ses désirs, nous dit l'Écriture. Et donc, voilà, le royaume de Dieu, il y a quelque chose de réjouissant dans la perspective de ce royaume que nous devons désirer. Seigneur, je ne me satisfais pas d'une vie moyenne, d'une vie entre deux, d'une vie à peu près. Mais Seigneur, je veux une plénitude de révélation, manifeste-moi ta gloire, parle-moi par les Écritures, parle-moi dans ma prière, parle à mon cœur, voilà. Et agis sur cette montagne. Et vous voyez, donc, pour vivre ces réalités du royaume, eh bien, il faut aller sur la montagne. Et donc, pour nous, la montagne, ce n'est pas une montagne physique. On peut effectivement aller au mont Tabor quand vous allez à Jérusalem. On peut aller, si vous habitez Toulon, vous allez au mont Pharon. Mais on peut prier Dieu partout. Encore une fois, c'est une réalité spirituelle. La réalité spirituelle de la montagne, c'est le secret de votre cœur. C'est quand vous priez, quand vous vous retirez dans le secret, votre Père voit ce que vous faites dans le secret et voilà, vous prenez un temps à part, bien sûr on peut prier en conduisant, on peut prier en faisant le ménage, on peut prier en faisant plein de choses, mais il est important de monter sur la montagne au moins une fois par jour. Il est important de s'arrêter et de monter sur la montagne, c'est-à-dire descendre dans son cœur, d'invoquer l'Esprit, de commencer à bénir Dieu, de lui parler, de s'offrir, d'offrir son cœur, d'offrir ses souffrances, d'offrir sa misère, d'offrir ses problèmes, d'offrir tout ce que l'on est. En fait, c'est s'offrir en sacrifice, c'est-à-dire offrir vos personnes et vos vies, nous dit Paul, en sacrifice d'agréable odeur. Et pour que Jésus les saisisse, vous voyez, dans les épousailles, il y a le don mutuel des deux parties. Si Dieu s'offre à nous, nous nous offrons à lui. Et quand nous allons dans la prière, quand nous montons sur la montagne, c'est-à-dire quand nous descendons dans notre cœur, il y a nécessairement cette offrande de nous-mêmes à Dieu. Un écueil, ça serait d'envisager la prière comme juste une récitation de prière, et c'est bien, de prière vocale, ou de demande de Dieu à Dieu, parce qu'on est submergé par des problèmes, et c'est légitime d'exposer à Dieu nos demandes, mais sans pour autant avoir désiré, sans pour autant s'offrir à lui, nous être donné à lui, pour qu'il puisse intervenir sur notre vie, pour que sa grâce puisse nous transformer, nous bénir, nous combler. Le but de la volonté du Père, c'est de nous combler. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, c'est pour ça qu'il a envoyé l'Esprit Saint, c'est pour nous combler et que dans cette faiblesse de notre nature humaine, l'handicap de notre amour, l'handicap de notre connaissance de Dieu, les blessures de notre cœur, de notre âme, de notre corps peut-être aussi, eh bien, il y déverse sa grâce, il y déverse sa puissance. Voilà. Qu'est-ce que, justement, Isaïe nous dit en Isaïe 25 ? Il nous dit que sur cette montagne, il fera disparaître le voile du deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fait quatre choses. Disparaître le voile du deuil, il fait disparaître la mort pour toujours, il essuiera les larmes sur tous les visages et sur toute la terre, il effacera l'humiliation. Donc disparaître le deuil, disparaître la mort, essuyer les larmes, effacer l'humiliation. Et ça, ça veut dire, on voit bien que c'est toute l'activité du Saint-Esprit qui est contenue dans ça. Hein, le voile de deuil, c'est cette conséquence d'être marqué par la mort et le péché et qui enveloppe tous les peuples et qui les maintient, vous savez, qui maintient dans une espèce de tristesse. Quand on est dans le deuil, on est dans une forme de tristesse. Il manque quelque chose, il manque à notre cœur, il manque cette communion d'amour et Jésus vient enlever ce deuil-là pour le combler. Il fait disparaître la mort et ça c'est... Alors si pour l'instant la mort physique n'est pas encore vaincue, Jésus l'a traversée et il l'a vaincue par sa résurrection, mais pour l'instant nous, notre chair est toujours pas ressuscitée, donc nous vivons encore cette étape de la mort. Mais la Bible nous dit que quand à la fin des temps, quand Jésus reviendra, il mettra son dernier ennemi sous ses pieds, c'est-à-dire la mort, et donc l'homme ne mourra plus après, il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle. Donc ça, c'est encore à venir hein, sur cette montagne. Mais on peut le prendre aussi au niveau de la mort spirituelle. Sur cette montagne, là où nous sommes dans l'intimité avec Dieu, eh bien, nous recevons, il fait disparaître cette mort spirituelle qui est la conséquence du péché dans notre vie. Et il nous donne sa vie lui-même, cette résurrection, il nous ressuscite avec son Fils et il nous donne l'Esprit qui est la vie même de Dieu. Hein. Troisième chose, Jésus, le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Bien, ça, c'est l'activité du Saint-Esprit consolateur. Jésus dit qu'il nous enverra le consolateur, le paraclet, le défenseur, celui qui est toujours avec nous. Donc, essuyer les larmes, c'est vraiment le propre du Saint-Esprit de venir nous consoler au plus profond de nous-mêmes. Par sa présence, par la vigueur qu'il nous donne pour traverser une épreuve. Et puis, il effacera l'humiliation de son peuple. Quelle est l'humiliation du peuple de Dieu? C'est l'humiliation qui est liée sans doute à la persécution, qui est liée encore à ce monde où le prince de ce monde a encore une activité. Il y a des pays où ils le vivent peut-être plus intensément que nous, en Occident, en France ou en Europe. Hein, des pays où quand vous êtes chrétien, vous êtes humilié, vous êtes mis à nu, vous êtes frappé, vous êtes jusqu'à la mort parfois, hein, vous êtes martyrisé. Ou même quand vous êtes chrétien, vous n'avez aucun travail, vous ne pouvez rien trouver. Bref, il y a des pays où l'humiliation est vraiment incarnée. Nous, c'est une humiliation passive, mais elle est quand même là. Ça peut être aussi une humiliation intérieure, celle que le diable peut mettre dans votre tête par l'accusation, par le sentiment de culpabilité. Quand vous avez péché, quand vous accueillez une pensée, un sentiment d'indignité, un sentiment d'échec, un sentiment... Voilà, tout ça, c'est humiliant et vous ne vous sentez pas digne du royaume de Dieu. Et le démon, lui, l'accusateur, vient vous enfermer là-dedans. Alors, vous savez très bien qu'il n'y a plus d'accusation pour qui est dans le Christ. Hein, et que c'est vraiment quelque chose qu'on doit combattre par la proclamation de la foi, par la puissance, justement, de ce Seigneur. Et quand on fait ça, eh bien, on est sur cette montagne et on déclare les réalités de la montagne pour notre propre vie. Il n'y a pas d'humiliation intérieure pour un fils de Dieu parce qu'il est déjà sauvé, il est déjà assis avec le Christ dans les lieux célestes et dans les lieux célestes, il n'y a pas d'humiliation. Et donc c'est important qu'on se raffermisse dans cette réalité-là. Donc vous voyez, sur cette montagne, il y a un bénéfice pour notre âme où Dieu va intervenir, Dieu va agir en faveur d'enlever le deuil, faire disparaître la mort en nous sauvant, essuie nos larmes par la puissance du Saint-Esprit, par la consolation du Saint-Esprit, et il efface l'humiliation en nous donnant la dignité du royaume, la dignité des fils de Dieu, la stature de la victoire dans le Christ. Donc ça, c'est vraiment ce que Dieu nous promet à chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous devons désirer, est-ce que nous devons vivre, est-ce que nous devons nous efforcer, parce que si c'est une réalité et une promesse qui est entièrement accomplie dans le Christ, vous savez que le Christ accomplit parfaitement toutes les prophéties, donc Isaïe 25, dans le Christ, pour nous, est complètement accompli. Et bien, il s'agit pour nous de prendre cette réalité, de la connaître, donc en ce qu'on est en train de faire, là, en la lisant, en la comprenant, en disant « Amen, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour moi aujourd'hui et demain, et donc, et ici et maintenant, et de le prendre par la foi, parce que c'est par la foi que je me saisis des réalités, des biens que j'espère, et que j'espère parce que la parole me les dit. Donc cette réalité de consolation, cette réalité de liberté, enlever le voile, faire disparaître la mort, donc de salut et de victoire, cette liberté de dignité des fils de Dieu, bah, je l'ai en plénitude dans le Christ par l'Esprit Saint qui l'actualise. Le Christ a permis que cette réalité-là soit accomplie en moi. Elle est accomplie en moi par le simple fait que de son incarnation déjà, puisqu'il s'est uni à l'humanité, à son incarnation, et surtout par le fait de sa rédemption, sa mort et sa résurrection sur la croix, où il a détruit mon péché, s'est chargé de mon péché, l'a détruit et m'a ressuscité avec lui. Et c'est ça qui fait que je peux prétendre à posséder ces réalités-là, non pas parce que j'en ai la capacité ou parce que j'en ai le mérite, mais parce que le Christ me les a données. Donc s'il me les a données, elles sont déjà prévues et elles m'appartiennent. Je pense que toute la puissance du diable, elle est dans le fait de nous faire douter ces réalités-là. Et c'est pour ça que ce qui suit dans Isaïe 25, je vais lire les dernières phrases, « Ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés, c'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Voilà, vous voyez que l'expérience du salut, elle est fondatrice de tout, elle est comme le point de départ de cette, elle est comme une explosion de cette réalité agissante de Dieu, le festin de viande grasse et de vin capiteux, de viande succulente et de vin décanté, le festin des épousailles pour chacun d'entre nous sur la montagne, il est lié à l'expérience du salut. Et cette joie, elle jaillit du cœur parce qu'en lui, nous espérions, il nous a sauvés. Il y a une réalité qui est accueillie. Hein. Je ne reste pas dans mon deuil, je ne reste pas dans l'esclavage du péché, je ne reste pas dans la culpabilité, je ne reste pas en arrière et toujours tourné en arrière, mais je regarde. J'accueille la puissance de la croix dans le maintenant et en lui nous espérions pour des situations concrètes de notre vie et il nous a sauvés. Ça veut dire qu'il a répondu et il a libéré une puissance qui vient d'un point d'impact qui est le Christ, la croix du Christ plantée il y a 2000 ans sur cette terre et son sang versé. Et ça rejaillit sur tout l'espace-temps, on va dire, ça rejaillit sur le monde entier et ça rejaillit sur toutes les générations des générations, aussi bien passées que celles à venir et que donc toute notre vie. C'est lui le Seigneur, il y a une révélation qui se passe à la croix. En d'autres termes, si nous montons à la montagne c'est spirituellement aller au pied de la croix. Et c'est pour ça que la croix est le lieu de la révélation par excellence. Et j'aime prendre cet exemple de comment. Pour moi, il y a une figure qui me parle beaucoup. Il y a deux figures en fait de ce qu'on vit à la croix. La première, c'est celle du bon larron qui connaissait rien à Jésus, qui était un meurtrier, qui était crucifié pour ce qu'il avait fait. Et on sait que la crucifixion, c'était la peine pour les meurtriers. Et donc du coup, il dit même à l'autre, pour nous c'est juste avec ce que nous avons fait. Donc on ne nous dit pas ce qu'ils ont fait, mais on nous dit quand même que c'est juste au niveau de la justice humaine et selon les lois de l'époque. Et il dit juste, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et cette simple phrase déclenche, qui est une parole de foi, c'est-à-dire je crois que tu vas monter dans ton royaume, ça veut dire je crois que tu es le roi de ce royaume. Donc tout d'un coup, il fait une déclaration que Jésus est le roi des Juifs et qu'il est le fils de Dieu. Et Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume. Ça veut dire que sur cette croix, lui-même, le bon larron, a été saisi par un esprit de révélation qui lui a fait proclamer une phrase hyper audacieuse de dernière minute qui l'a sauvé totalement. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. C'est-à-dire que là, il y a zéro mérite. C'est le pur exemple de la grâce, c'est-à-dire de la faveur imméritée. Et ça, si vous cherchez toujours à comprendre ce qu'est la grâce pour vous, quelle est la faveur pour vous, rappelez-vous le bon larron, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun mérite. Le don du salut, le don de la place auprès de Jésus dans le royaume, elle est donnée, offerte gratuitement parce que je déclare de ma bouche et de mon cœur que Jésus est Seigneur. C'est pour ça que le texte dit « En lui nous espérions, il nous a sauvés, c'est lui le Seigneur ». Cette déclaration de Jésus Seigneur ouvre la réalité du royaume, le festin des noces. Et la deuxième image que j'aime bien, c'est ce centurion romain. Donc vous avez vu, c'est quand même deux personnalités qui n'ont pas écouté Jésus particulièrement et qui n'ont pas suivi Jésus. Ce n'est pas des disciples, ce n'est pas des pharisiens non plus, ce n'est pas des hommes religieux. C'est un centurion romain, donc un soldat de l'armée romaine, sans doute avec ses cultes païens romains, et un meurtrier. Et le centurion romain, lui, quand il voit le cœur transpercé de Jésus, quand il voit l'eau et le sang jaillir, alors il déclare « cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Et là, d'où ça lui vient, quoi ? Un esprit de sagesse et de révélation qui saisit son cœur en voyant comment il avait expiré, il déclare « cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Parce qu'on sait bien que quand, selon la tradition, quand Jean expire, il rendit l'esprit et on dit qu'il rend l'esprit, il donne l'esprit à l'Église qui est en dessous présente. Et on imagine bien, du coup, cet Esprit Saint qui saisit l'intelligence et le cœur de ce centurion qui dit « Waouh, cet homme était vraiment le Fils de Dieu » en le voyant expirer. Un truc complètement incompréhensible. Il n'y a rien dans l'expiration, quelque chose qui va révéler la divinité de Jésus, surtout dans l'état dans lequel il devait être à la fin de son agonie sur la croix. Mais donc voilà, pour nous dire qu'à la croix, quand nous allons à la croix, nous y allons avec notre péché, nous y allons avec nos faiblesses, nous y allons avec une humilité. Quand nous allons à la croix, c'est parce que nous savons que tout vient de la croix. C'est cette humilité-là qui nous manque parfois quand nous prions, que nous prions pas comme des pauvres de cœur. Or, Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Et nous ne pouvons pas approcher du trône de Dieu sans humilité. Humilité, ça veut dire juste « Seigneur, humilité, ça veut dire avec une ferme assurance de ma dignité. Hein, ça veut dire que je peux avancer, je connais ma réalité, mais je suis tellement sûr de cette possibilité d'avancer grâce à la mort et la résurrection de Jésus que j'avance. Avançons-nous avec pleine assurance vers le trône de sa grâce, nous dit le texte, je crois, d'Hébreu. Eh bien, nous avançons de la croix pour y déposer nos péchés, nous avançons de la croix pour y contempler jusqu'où va l'amour du Père quand il sacrifie son Fils alors que nous étions pécheurs. Dieu a envoyé quand même son Fils unique mourir pour nous. Lui qui était sans péché, Dieu l'a identifié au péché des hommes, hein, pour que nous-mêmes en lui, nous soyons identifiés à sa justice. Donc il y a cet admirable échange. Et quand nous venons à la croix, eh ben, nous venons aux épousailles. Parce que, en fait, les épousailles, frères et sœurs, elles ont lieu à la croix. Elles ont commencé effectivement dans la chair à l'incarnation et elles s'actualisent véritablement à la croix, dans justement quand Jésus se charge de nos péchés, le détruit, quand il nous donne sa divinité, sa résurrection. C'est là où il y a l'unité. Et donc quand nous venons au festin des noces de son Fils, hein, le royaume des cieux est comparable à un roi, Dieu le Père, qui célèbre les noces de son Fils. Ça veut dire que nous allons à la croix. Le royaume des cieux est comparable à ce moment précis où les noces sont célébrées dans la mort et la résurrection de Jésus. Et il envoya ses serviteurs pour inviter les gens aux noces. Et ça veut dire pour rentrer dans cette réalité du salut, rentrer dans ce choix du Père de devenir, de nous laver du péché dans le sang de Jésus et de nous donner l'Esprit Saint pour que nous devenions l'épouse de son Fils, l'Église, pour que nous soyons ses fils bien-aimés dans le Fils Jésus, dans le Fils unique. Hein, donc tout homme est invité. Donc il envoie ses serviteurs, c'est vous, c'est moi les serviteurs, évidemment, c'est nous qui sommes engagés dans la mission. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Voilà. Il envoya d'autres serviteurs dire aux invités, « Voici, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs, mes bêtes sont grasses, sont égorgées, tout est prêt, venez à la noce. Venez rencontrer Jésus, venez recevoir mon amour, venez recevoir la miséricorde, le pardon de vos péchés et le Saint-Esprit qui va vous combler, qui va vous rassasier l'âme d'une connaissance nouvelle et de toute ma bonté, de tout mon amour. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, hein, heureux qui trouve en lui son refuge. » Il y a d'ailleurs à ce sujet-là, on avait le psaume 22 qui nous parle de ça. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, etc. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. C'était quoi ? Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Voilà. Cette phrase-là, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Frères et sœurs, marquez ça en gros dans votre salle de bain. Pour quand vous vous brossez les dents, vous avez une phrase biblique qui vous dit, ok, aujourd'hui, la réalité spirituelle qui va orienter ta journée, même quand tu auras des perturbations chimiques dans ta tête, dans ton cœur, dans ton environnement professionnel, grâce et bonheur m'accompagnent. Le bonheur et la grâce sont liés. Le bonheur, c'est l'effet de la grâce dans mon cœur. La grâce est la justification par la foi. La grâce qui me rend juste, la grâce qui me comble de l'amour, m'amène. Le bonheur, en fait, est une activité, est une conséquence de l'activité de la grâce en moi. Donc, de ce salut et de cette faveur de Dieu qui veut sans cesse me remplir de lui. Eh bien, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. L'effet, c'est j'habite dans la maison du Seigneur. J'habite pas à côté, j'habite pas dehors. Je suis pas un mendiant comme le pauvre Lazare à l'extérieur. Je suis dans la maison parce que je suis fils et héritier. Et donc, j'ai accès au bien du royaume. C'est très important de se le redire, ça, frères et sœurs, parce que c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose qui naturellement vient à notre esprit et dans notre fonctionnement humain. C'est quelque chose que l'on doit rappeler à l'intelligence pour la faire rentrer dans une obéissance. Parce que la manière dont on se pense naturellement est une pensée charnelle, est une approche charnelle. Et notre approche charnelle, elle est faite sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on connaît de nous-mêmes, sur nos capacités, et elle n'est pas d'abord spirituelle. Les choses spirituelles sont inconnues à la chair, nous dit Paul. Par contre, elles sont connues, les choses spirituelles sont connues par l'esprit. Et l'Esprit Saint révèle ces choses spirituelles à notre esprit. Voilà. Et c'est cette grâce-là que nous recevons. Donc, eh bien, la question, c'est que ces invités, ça peut être aussi nous. Alors, nous, on peut être les serviteurs qui invitons, mais ça peut être aussi nous, les invités. Et ça, c'est parce qu'en fait, tous les jours, nous avons à participer au festin des noces. Ce n'est pas quelque chose qu'on a reçu au baptême, ok, je suis dans le banquet des noces, et c'est bon. Puisque c'est un état d'intimité avec Dieu, c'est tous les jours que je vais choisir de participer aux noces, et c'est-à-dire de rentrer dans cette intimité. C'est tous les jours que je vais choisir de prendre un temps à part pour prier Dieu, pour connaître Dieu, pour que Dieu me parle, pour que Dieu me rassasie. Et là, on peut être dans le cas des invités qui, finalement, de manière un peu hautaine, vont dire « Mais ils n'enterrent aucun compte, s'en allant, l'un à son champ, l'autre à son commerce. » Bon, après, c'est peut-être pas vous. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Je pense que c'est pas vous. Mais les deux premiers, quand même, avec nos occupations de ce monde, avec le speed, avec « J'ai pas le temps, j'ai les enfants à conduire là, les chercher, j'ai mon travail, j'ai ceci, j'ai cela. » Finalement, parfois, on est un peu dans cet état-là. Ou même quand on est prêtre, on a tellement de rendez-vous parfois qu'on a dit « Hop, j'ai pas le temps de faire adoration ce matin, j'ai pas le temps. » Enfin, c'est pour ça qu'on fait ça très tôt le matin, pour qu'après on n'ait plus à dire ça. Mais vous voyez, l'un à son champ, donc à son activité, l'autre à son commerce, donc à sa recherche de bienfaits peut-être financiers. Voilà, donc et par rapport à ça, le roi se mit en colère, il envoyait ses troupes et fit périr tout le monde. Bon bref, enfin les meurtriers surtout. Et du coup, voilà, est-ce que nous sommes prêts pour entrer, pour choisir, pour entendre l'appel de Dieu quotidien, de dire qu'il nous dit « Viens à mon repas des noces, mon repas est prêt pour toi pour te rassasier et je veux aujourd'hui te rassasier, je sais de quoi va être faite ta journée et j'ai déjà prévu toutes les grâces nécessaires pour que tu puisses vivre cette journée avec ma force, avec mon amour qui va te donner une stabilité intérieure qui fera que tu seras inébranlable, même si c'est peut-être difficile ce que tu vas traverser, avec une paix et une joie qui ne seront pas naturelles, mais qui seront surnaturelles, et qui, même si la situation extérieure est compliquée, eh bien, cette paix et cette joie ne te quitteront pas. Je vous rappelle que le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Donc cet état de justice, ça veut dire de salut et de paix et de joie, c'est l'effet du Saint-Esprit dans notre cœur. Et donc, c'est ça. Est-ce que je réponds vraiment à l'appel quotidien de Dieu qui me dit « Viens manger, viens te rassasier à mon repas aujourd'hui ?» Parce que ce repas, eh bien, il est nécessaire pour vivre la vie éternelle dès cette terre. Alors, il le sera éternellement dans le ciel. Mais nous, cette terre où nous sommes encore en pèlerinage et où nous sommes à lutter contre des esprits, des puissances adverses, etc., nous avons besoin d'une nourriture spirituelle surnaturelle qui va nous donner une force surnaturelle, qui va nourrir en nous cette vie éternelle, qui va nous donner de vivre cette réalité et qui va nous donner donc une force naturelle dans notre faiblesse humaine naturelle. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça nous renvoie à l'Eucharistie. Je parle aux auditeurs catholiques, mais je pense qu'il y a des protestants qui nous écoutent. Ça renvoie à la Sainte Cène, à la communion que vous vivez par la foi. Pour nous, l'Eucharistie, nous croyons que nous mangeons réellement le corps et le sang du Christ après la transsubstantiation. Ce passage magnifique, cet enseignement de Jésus en Jean chapitre 6, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » Donc dans ces noces, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est l'époux lui-même qui se donne en nourriture à l'épouse. Le festin de viande grasse et la viande d'agneau, de l'agneau immolé. Et son sang est la vraie boisson. Waouh ! Et du coup, on comprend l'importance de la messe, on comprend l'importance de cette sainte communion, de la communion. Une fois, j'entendais un pasteur ou une pasteur, je ne sais plus laquelle, qui me disait ça, qu'il était en train de découvrir par le Saint-Esprit l'importance de la sainte communion. Justement dans ce sens-là, des épousailles et de vivre cette réalité du banquet des noces. Et dans la messe, avant la communion, on dit justement, après que le pain et le vin soient devenus le corps et le sang du Christ, on dit « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Vous voyez, « Heureux les invités au festin. » Et alors je me dis, ben voilà, c'est une invitation pour nous. Alors effectivement, pourquoi ? Parce que on peut aller, parce que la messe, c'est vraiment l'actualisation du mystère de la croix. Alors de manière sacramentelle, mais on peut aller à la croix de manière très spirituelle, en déclarant ce que le Christ a réalisé pour nous à la croix, en déclarant ce que nous croyons, en déclarant notre foi. Je crois, Seigneur, que tu es mort sur cette croix pour effacer mes péchés. Je crois qu'à cette croix, ton sang me purifie de tout péché, que tu me justifies de mes péchés, que tu me donnes le don de la justice et je reçois l'abondance de ta grâce et je reçois ton Saint-Esprit, l'eau et le sang qui jaillissent de ton cœur. Voyez, vous pouvez le déclarer. Vous pouvez aussi le déclarer et le vivre sacramentellement en communion. Et il y a des gens qui vont à la messe tous les jours, et il y a des gens qui vont à la messe une fois par semaine, il n'y a pas de règle. Enfin, dans l'Église, on demande que vous alliez à la messe le dimanche pour communier, parce que c'est une importance extrêmement forte pour que le Christ nous a laissé. Il dit « Faites cela en mémoire de moi », parce que par ce biais-là, il donne sa chair en nourriture, de manière très mystérieuse, et son sang comme boisson pour se marier avec nous, pour renouveler l'épousaille du Christ et de l'Église qui a eu lieu à la croix il y a 2000 ans, mais qui est actualisée, parce qu'il y a un seul sacrifice. Jésus n'est pas resacrifié à chaque Eucharistie, il y a un seul sacrifice, mais qui est actualisé dans notre âme, parce que nous nous offrons à lui, il s'est offert à nous, et bien nous communions, et c'est le fait de manger, nous participons, nous anticipons finalement le royaume de Dieu, et ce festin éternel que nous aurons dans le royaume de Dieu. Et alors, si on continue un peu ce texte, il me reste 4 minutes, eh bien, on a, du coup, comme personne ne veut rentrer, du coup, Dieu envoie tout le monde et puis il dit, prenez tout le monde, les bons comme les mauvais, faites-les rentrer dans la salle. Et donc ça, c'est un peu une image, c'est même carrément une image de la fin des temps, quand le Christ reviendra pour le jugement de tous. Et le roi examina les convives qui étaient dans la salle et il en vit un qui ne portait pas le vêtement de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ? Alors, il y a la question de ce vêtement de noces, frères et sœurs, qui est extrêmement important. Parce que c'est pas juste... Il ne faudrait pas se retrouver dans la salle sans le vêtement de noces. Mais en vérité, le vêtement de noces, il est tout simple à revêtir. C'est quoi ? C'est revêtir le manteau de la justice. C'est revêtir le manteau de sa justice qu'il nous a offert. En d'autres termes, par la foi, accueillir le don de la justice qu'il nous fait, qui découle de la croix. C'est par la foi qu'on prend ce manteau, c'est par la foi qu'on revêt ce manteau. Paul nous dit revêtir le Christ, revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est celui qui est recréé saint et juste à l'image de Dieu dans la vérité, selon Éphésiens 4, 24. Hein. Eh bien, revêtir le Christ, revêtir l'homme nouveau qui est justifié, qui est sanctifié par le Christ. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, on ne peut pas aller au ciel, on ne peut pas participer au royaume maintenant ou à la fin des temps, sans avoir été sauvé par le Christ. On en revient encore à ce Isaïe 25. En lui nous espérions, il nous a sauvés, c'est lui le Seigneur. Donc ce mystère-là, soyez sans cesse renouvelés dans cette réalité du salut, c'est un point, une vigilance absolue, et dans toute la vie, toute la plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qui va constituer une certaine épaisseur à notre vie chrétienne, au niveau de notre âme, au niveau de notre intérieur, vous voyez. Et du coup, tout ce qui va être après forme religieuse, chapelet, prière, lecture de la parole, enfin tout ce que vous pouvez faire, quelles que soient vos dénominations et louanges, je ne sais quoi, eh bien, va s'appuyer sur une réalité intérieure de plénitude, de salut, de plénitude. Et le vêtement de noces, vous êtes obligé de l'avoir. Si vous ne l'avez pas, vous sortez à poil dans la rue, vous sortez à poil dans le combat spirituel. Et là, vous êtes en situation d'extrême faiblesse. Parce que si vous n'êtes pas revêtu du Christ, si vous êtes en proie à l'accusation, vous êtes en proie à la malédiction, vous êtes en proie à voilà, c'est le sang de Jésus qui est notre puissance, c'est le sang de Jésus qui nous purifie, c'est le sang de Jésus qui nous délivre du mal, c'est le sang de Jésus qui nous unit au Christ, c'est le sang de Jésus qui nous donne la vie éternelle. Bon, il y a plein de choses sur le sang de Jésus, il faudrait que je vous fasse un enseignement là-dessus. Cette réalité-là, ben, nous la recevons simplement. Donc, juste c'était cette réalité-là que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Chacun d'entre nous, nous sommes invités et nous y allons, nous répondons avec générosité à cette invitation. Comme nous le sommes, parce que nous revêtissons le Christ, donc on peut sans aucun problème avancer dans cette salle des noces, en sachant que c'est nous l'épouse, en sachant qu'il y a un festin de viande grasse et de vin capiteux pour nous. Le vin nouveau, le vin du royaume, le vin du Saint-Esprit, le vin qui nous transforme en outre neuve pour contenir ce vin nouveau. Frères et sœurs, la perspective de ces textes, elle est extrêmement enthousiasmante et je voudrais juste vous faire rentrer dans cet enthousiasme de cette vie spirituelle qui est la vôtre de tous les jours. Dieu comblera tous vos besoins selon la richesse dans le Christ Jésus. Le Seigneur éblouira notre cœur. Je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours.